Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des grandes figures de la charité méconnues du grand public. Monseigneur Rodin en est une sorte d'abbé Pierre. Monseigneur Rodin est le fondateur du Secours catholique qui intervient aujourd'hui dans plus de 70 pays et vient en aide à plus de 2,5 millions de personnes. Un géant de la charité à découvrir. Voilà donc pour cette émission Vivante Église, ce matin en direct de nos studios de Lourdes. Je reçois ce matin donc le père Luc Dubrulle, vous êtes président délégué à l'Université catholique de Lourdes, de Lille, je vais y arriver, et titulaire de la chaire Jean Rodin dans cette même université catholique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc ce matin, il faut quand même dire les circonstances qui ont motivé cette émission, puisque donc il y a une session Jean Rodin, donc cet homme qu'on va découvrir, ce géant de la charité, comme je le disais en introduction, qui a commencé lundi soir à Lourdes et qui va continuer jusqu'à demain matin. L'idée, c'est de faire découvrir à tous les bénévoles et salariés du Secours catholique cette figure ô combien inspirante. Et puis, on donnera quelques rendez-vous peut-être pour cette journée à tous ceux qui habitent Lourdes et alentours qui voudraient se joindre à cet événement. Alors, Monseigneur Jean Rodin, je disais peut-être avant qu'on se plonge un peu dans sa vie, parce qu'il va falloir qu'on fasse connaissance, puisque nombre de personnes ne le connaissent pas. Quand je dis c'est un géant de la charité, c'est une sorte d'abbé Pierre, qu'est-ce que vous diriez, vous ?
Oui, un géant de la charité, oui, dans la mesure où il a vraiment consacré toute sa vie, et notamment les 30 dernières années de sa vie, à faire en sorte que l'Église soit une géante en charité et non pas lui-même.
Alors, Monseigneur Jean Rodin, donc il n'était pas Monseigneur avant, il naît donc à Remiremont. Peut-être juste, une autre question, on va dire, introductive. Si vous deviez vous le présenter, moi j'ai dit fondateur du Secours catholique, qu'est-ce que vous diriez, vous ?
Oh, c'est celui qui, c'est vraiment la cheville ouvrière du Secours catholique, c'est lui qui a mis en place le Secours catholique. Tout à l'heure, on viendra sur les détails de la fondation, mais c'est vraiment le patron du Secours catholique, on l'a surnommé le manager de la charité. C'est vraiment la figure de l'Église de France qui a contribué à ce que toute l'Église comprenne bien ce qu'elle a à vivre en matière de charité, c'est-à-dire en matière d'amour du prochain.
Voilà, donc une figure à découvrir, c'est ça aussi donc la richesse de cette émission, c'est de revenir donc sur des figures du passé qui sont évidemment inspirantes pour le présent. Et alors c'est vrai, quand on se plonge dans la vie de cet homme, il y a de quoi être ébahi, entre autres on le verra, hein, son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut commencer par le début. Donc Jean Rodin naît donc à Remiremont, donc le 29 janvier 1900. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'univers dans lequel il naît, à quoi ressemblait sa famille ?
Oui. Alors ses parents se sont mariés sur le tard. Son père Charles est un épicier en gros. Et ça a d'ailleurs formé un peu Jean Rodin, parce qu'il a appris à l'école de son père à fabriquer des colis qui soient précis, bien faits, avec des bonnes choses dedans. Et puis sa mère est institutrice, et là aussi ça l'a beaucoup formé, parce que elle le faisait travailler, et notamment des dictées et reprendre des écrits. Et Jean Rodin, qui a écrit plus d'un millier de textes, était quelqu'un de pointilleux sur la qualité des écrits, et ces écrits qu'on peut lire, hein, qu'on trouve d'ailleurs sur le site de la Fondation Jean Rodin. Ces écrits sont remarquables, parce qu'il retouchait toutes choses pour être au plus près de la perfection.
C'était quoi donc ? C'était une famille, on va dire, de petite bourgeoisie,
oui,
chrétienne.
On peut dire ça. Oui, oui, tout à fait. Il avait une sœur un peu plus jeune que lui, qui deviendra moniale.
Ah oui, rien que ça quand même. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser sur son enfance ? J'avais cru comprendre qu'il avait été très marqué par la Première Guerre mondiale et puis par la misère qu'il avait pu constater à cette occasion.
Oui, c'est quelqu'un aussi qui était fragile de santé. Et d'ailleurs, tellement fragile que sa mère avait mis un certain nombre de cœurs dans une reproduction de la grotte de Notre-Dame de Lourdes à Remiremont. Trois cœurs, l'un s'il vivait, l'autre s'il atteignait 7 ans et l'autre s'il atteignait 12 ans. C'est pour vous dire qu'il avait une santé fragile, et lui-même a d'ailleurs été surpris de l'écart entre sa santé fragile et l'immense activité qu'il a pu déployer tout au long de sa vie.
Ça veut dire quoi, trois cœurs, en fait, quand vous dites ?
Trois cœurs, ben ça veut dire que c'était, si vous voulez, comme des vœux que sa mère faisait, mais ça veut dire qu'elle était inquiète sur la viabilité de Jean Rodin.
On dit aussi qu'il était d'une grande sensibilité. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent illustrer ce que j'ai pu glaner par-ci par-là?
Ah, sensibilité. C'est quelqu'un comment je peux dire, sensibilité. C'est quelqu'un de raide. C'est quelqu'un d'exigeant. Hein. C'est quelqu'un qui parle peu. C'est un Vosgien. C'est un taiseux. Hein. Mais c'est quelqu'un qui écoute énormément.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa vocation? J'ai cru comprendre qu'il avait rapidement voulu être prêtre. Est-ce qu'il y a des choses dans ses écrits qui disent quelque chose de sa vocation, la manière dont il a voulu cheminer vers ce grand mystère?
Très peu de choses là-dessus. Simplement, ce qu'il a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est que son ordination diaconale l'avait très fort marqué. Vous savez que avant d'être ordonné prêtre, les séminaristes sont ordonnés diacres. Il a été ordonné diacre le jour de Noël 1923, donc il avait 23 ans. Et cette ordination l'a marqué. Et toute son action ensuite, hein, et de l'ordre, de la force des diacres. Hein. Et ça, c'est quelque chose. Et puis, donc le jour de Noël et la crèche a toujours eu beaucoup d'importance pour lui, les mages, etc. Donc, il y a là quelque chose d'essentiel qu'il a compris dès le début de son existence.
Donc il est ordonné prêtre en 1924 et il est nommé donc vicaire à Épinal c'est pas tant le lieu qui est important mais la responsabilité qu'il va avoir puisque il est à la tête d'une communauté qui est dans un quartier ouvrier et assez rapidement il va aussi s'engager dans la JOC, donc la jeunesse ouvrière chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ses premières années de sacerdoce et donc cet homme qui s'engage dès le début de son sacerdoce auprès des plus pauvres?
Quand il est à Épinal, donc il est vicaire, hein, il n'est pas le patron, il y a un curé, et c'est un vicaire extrêmement dynamique. Hein, on l'appelle le vicaire électrique, hein, et certaines dames de la paroisse l'appellent le grand escogriffe. C'est quelqu'un qui est assez indépendant, qui remue beaucoup de choses.
Est-ce que vous avez des exemples? J'ai cru comprendre qu'il y a des...
Oh, ben il n'hésitait pas à transformer une décoration d'église pendant la nuit pour en faire quelque chose d'autre. Mais surtout le plus important, c'est que avec les lycéennes dont il était aumônier, eh bien il commentait l'évangile du dimanche suivant. Et à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas courant et qui est novateur. L'importance de la Bible, pour lui, a été toujours considérable, hein, dans toute son existence, dans la manière dont il se ressourçait et dont il comprenait surtout ce qu'il avait à vivre et ce qu'il avait à décider.
Son engagement dans la jeunesse ouvrière chrétienne, comment ça s'est fait? Est-ce que vous pouvez présenter peut-être en quelques mots ce qu'est la jeunesse ouvrière chrétienne, qui est peut-être moins connue aujourd'hui?
Oui, alors donc c'est un peu plus tard, donc 5 ans après avoir été, il est durant 5 ans vicaire à Saint-Maurice d'Épinal, et puis il est nommé curé de deux petits villages, Mondre-sur-Vert et Norroy, des petits villages qui sont très peu chrétiens, et donc il travaille là à essayer de re-christianiser ces lieux, et il s'y engage, ici. Déploie, mais peut-être qu'il tend un peu à s'ennuyer et vient pour lui comme une planche de salut qui est la création de la JOCF à Neuchâteau, c'est à 30 km de Mandres-sur-Vert où il est curé, et donc il achète une voiture et il y va très régulièrement. Alors la jeunesse ouvrière chrétienne féminine, hein, qui se fonde là tout juste, ben il s'agit d'aider les jeunes ouvrières à vivre chrétiennement leur vie d'ouvrière. Et donc là, ce qu'il essaie notamment, c'est d'amener la lucidité du Christ dans la vie qui peut être la leur. Et puis il monte avec elle des pièces de théâtre, notamment une pièce qui s'appelle Notre-Dame de la Mouise, et qui dit déjà des choses importantes, hein, sur l'attention qu'il peut avoir à la misère vécue.
Notre-Dame de la Mouise.
De la Mouise.
La Mouise comme la misère, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
On avance à grands pas. Je voulais parler de la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ou à citer
oui.
ou à...
Alors, étant aumônier de la JOCF de Neuchâtel, il se fait remarquer parmi les ténors de la JOC française qui l'appelle pour être aumônier de la Fédération JOC Paris Sud. Et donc, il devient aumônier JOCF à plein temps. Et il déploie une grande énergie pour mettre en place la veillée des 10 ans de la création de la JOC, une grande veillée au Parc des Princes. Alors imaginez 80 000 jeunes qui sont là dans le Parc des Princes. Et donc Jean Redin monte cette veillée sur le thème du travail. Et donc il fait amener sur le Parc des Princes des machines, outils, forges, métiers à tisser, etc. De telle sorte que le travail des ouvriers et des ouvrières puisse être là signifié, manifesté. Et puis que le Christ qui est le grand architecte de la cité, eh bien soit là signifié et présenté, acclamé au cœur même du Parc des Princes. Voilà, c'est quand on voit les images, on dit bah, c'était des JMJ bien à l'avance.
Voilà, et puis ça vaut le coup de souligner aussi donc l'importance de cet engagement auprès de la JOC, puisque la JOC c'est quand même un mouvement qui a irrigué l'Église et qui a été présent aux classes dites ouvrières ou populaires, et on sait aujourd'hui parfois la difficulté qu'a l'Église à rejoindre ces différentes classes. Donc la Seconde Guerre mondiale. Alors la Seconde Guerre mondiale donc est déclarée et rapidement, en tout cas l'été 1940 ou un petit peu avant, je crois en juin 1940, enfin au début en 1940, il devient aumônier général des prisonniers de guerre. En tout cas, il a donc pendant cette Seconde Guerre mondiale un rôle, on va dire très très important et très particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette responsabilité et comment il se retrouve en fait aumônier général des prisonniers de guerre?
Alors, il est d'abord prisonnier, hein, comme il est aumônier d'un régiment, et puis son régiment est fait prisonnier, et il s'ennuie comme prisonnier, ce qui est un peu normal, et il demande l'autorisation de s'évader à l'archevêque de Paris et à son chef militaire.
Et alors là, ça veut dire quoi demander l'autorisation de s'évader?
Ah ben il demande à l'archevêque, m'autorisez-vous à m'évader de mon régiment? Et idem à son supérieur militaire qui l'autorise. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il était prisonnier là des Allemands, mais il demande, bien non, c'est pas aux Allemands qui demandent l'autorisation de s'évader. Et donc il peint sur un véhicule, il peint aumônier des prisonniers. Et aumônier général des prisonniers, et puis il s'avance devant le planton allemand qui, devant cette inscription qui paraît assez officielle, eh bien lève la barrière et fait le salut, et Jean Redin s'évade de cette façon.
Alors il faut expliquer ce que sont les prisonniers de guerre, c'est-à-dire qu'il y a quoi, plus d'un million de prisonniers de guerre à l'époque, de l'armée française qui est offerte d'une certaine manière.
Oui, et donc être aumônier des prisonniers de guerre, c'est quoi? C'est de dire, vous voyez, de la même façon qu'à la JOC, les aumôniers, ils aident, hein, ils contribuent à ce que les uns les autres puissent vivre une vie chrétienne, eh bien tous ces prisonniers qui sont dans les différents camps, en particulier en Allemagne, ont besoin également d'être soutenus dans leur vie. Et donc pour ça, eh bien il importait que les prêtres qui étaient aussi prisonniers puissent les soutenir spirituellement, puissent célébrer la messe. Et donc pour ça, mais pour célébrer la messe, il faut du vin, il faut des hosties, il faut des ornements, etc. Et c'est là qu'il met en place les fameuses valises chapelles qu'il envoie, donc petite valise avec ce qu'il faut pour célébrer la messe, et donc et qu'il envoie dans les différents camps avec aussi des évangiles, des livres de prière, etc. L'enjeu, c'était de soutenir la vie spirituelle des prisonniers.
Alors il a aussi essayé de rejoindre tous les travailleurs forcés français qui étaient donc envoyés en territoire allemand. Est-ce qu'il y est parvenu? J'ai cru comprendre que c'était un peu une aumônerie clandestine. Et puis derrière ça, davantage, est-ce que vous pouvez nous aider à recontextualiser, à dire l'importance ou la force de caractère ou tempérament qu'il fallait à l'époque pour arriver à mener une telle mission?
Oh ben, il fonce partout, il se crée des autorisations, il imprime des papiers officiels, il force tous les barrages pour faire en sorte que ces activités de soutien des prisonniers puissent se faire. Alors, sur les prisonniers, c'est une activité officielle. Ce qui est clandestin, c'est l'activité par rapport au service du travail obligatoire, le STO. Et donc, à cette époque, il essaie d'avoir une aumônerie officielle, les Allemands refusent. Et donc, c'est là où il décide avec l'archevêque de Paris d'envoyer des prêtres soient volontaires au service du travail obligatoire pour devenir des aumôniers, du coup là clandestins. Et c'est le début, d'une certaine façon, des prêtres ouvriers. Oui. Donc il y a là une bonne vingtaine de prêtres qui se sont enrôlés dans le service du travail obligatoire pour être des aumôniers clandestins dans ces services en Allemagne.
En quoi cette période pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on vient de décrire très brièvement, en fait, ça peut nous inspirer pour aujourd'hui, ou ça peut, cette figure peut nous aider à, je sais pas, à avoir du courage apostolique comme ça, être conscient aussi d'un certain nombre de choses. J'avais relevé cette expression, il disait qu'il était comme responsable d'un diocèse des barbelés. Je ne sais pas si...
L'expression n'est pas de lui, mais effectivement, on a appelé ça le diocèse des barbelés. C'est de pouvoir faire exister une église dans la captivité. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel, hein, de faire exister cette église dans une situation difficile. Et puis, ce qu'il y a, il me semble, de très important, c'est que ce qu'a essayé de faire Jean Rodin, c'est de tisser un réseau par-delà les barbelés, c'est-à-dire de mettre les gens en relation, de pouvoir connaître les uns et les autres. Et donc, il fait établir un tas de fiches pour qu'on répertorie les aumôniers, les prisonniers, dans quel camp ils sont, etc. Et d'établir aussi des liens avec les familles. Et donc, c'est tout ça qu'il met en place durant ces années de captivité, d'établir un très large réseau, de mettre les gens dans des situations complètement difficiles, le plus possible en relation, donc connaître, inventorier, et créer des réseaux.
Voilà, alors on va faire une première pause musicale et puis après on va parler de la grande aventure du Secours catholique. En tout cas, c'est vrai que c'est une page d'histoire un peu loin, mais si on fait des parallèles avec la situation actuelle, si on imaginait l'action de cet homme aujourd'hui, on comprend que l'on en parle plus de 50 ans après de cette grande figure de la charité. On fait une première pause et puis on vous retrouve tout de suite après, donc en direct de Lourdes.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin en direct de Lourdes, depuis donc l'antenne de Radio Présence à Lourdes et tout près des sanctuaires, presque dans le sanctuaire de Lourdes. Donc émission donc sur Monseigneur Jean Rodin, alors fondateur, pas tout à fait, le Père Luc Dubrulle va nous expliquer, en tout cas une des grandes figures des débuts du secours catholique qui peut être inspirante pour aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes avec donc le Père Luc Dubrulle, président, recteur délégué à l'Université catholique de Lille et titulaire de la chaire Jean Rodin dans cette même Université catholique. Alors brièvement, probablement trop brièvement pour vous qui êtes un si fin connaisseur de cet homme, on a balayé sa vie, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis donc il y a cette grande aventure du secours catholique. Alors je le disais en introduction, vous n'êtes pas forcément d'abord un spécialiste du secours catholique, mais pour donner un peu la mesure, donc le secours catholique c'est aujourd'hui, enfin... C'est une espèce de comment on peut dire ça, comme le bras armé de la charité de l'Église en France, ou
en tout cas c'est
dire que c'est pas une ONG comme les autres, quoi. C'est une association qui est voulue par la Conférence des évêques de France et qui est censée manifester la charité de l'Église.
Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été créé en 1946. Hein. C'est l'Assemblée des cardinaux et archevêques qui a demandé au Secours catholique international, qui s'était fondé un peu plus tôt, en 1944, à Toulouse d'ailleurs, un Secours catholique international avec des laïcs qui menaient l'affaire. En 44, 45, 46, on avait en France deux organismes un peu concurrentiels, Secours catholique international Toulouse d'un côté, et puis le comité catholique de secours, en fait c'est l'aumônerie des prisonniers de guerre qui s'était transformée et que menait donc Jean Rodin. On avait deux organismes un peu concurrentiels sur ce terrain nécessaire hein, du secours, de la charité. Et donc c'est l'Assemblée des cardinaux archevêques qui leur a demandé de fusionner pour avoir un seul secours catholique et qui soit en charge de manifester la charité officielle de l'Église de France. C'est comme ça que le secours catholique est fondé, donc en juin 1946, et il est porté sur les fonts baptismaux, ici à Lourdes, le 8 septembre 1946, hein, à l'occasion du pèlerinage du retour des prisonniers de guerre. Il y a quelque chose d'important parce que...
C'est quoi le pèlerinage du retour des prisonniers de guerre, c'était...
Alors, quand Jean Rodin avait proposé aux prisonniers de guerre de faire ce vœu à la Vierge Marie quand ils étaient dans les camps, on leur disait ce vœu qui consistait à dire « si j'en reviens de ces camps, de la prison, de la captivité, si j'en reviens, j'irai à Lourdes ». Et c'est la promesse qu'il leur avait proposé de faire. Et du coup, après la libération, eh bien, ils sont venus ici à Lourdes en septembre 46 pour rendre grâce, pour remercier, pour aussi célébrer finalement le passage de la captivité à la libération. Et très symboliquement, ils ont passé le Gave. Vous imaginez la prairie là en face de Lourdes, qui est organisée avec des camps de stalag, d'oflag, etc. Et donc les prisonniers se sont répartis dans les camps où ils étaient. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, ils ont fait tomber toutes les constructions qui étaient là et ils ont passé le Gave. À l'époque, il n'y avait pas de pont. On avait donc construit des ponts spécialement pour l'occasion. Et c'était la manifestation du passage de la captivité à la libération. Et on aurait pu imaginer que voyez, l'aumônerie des prisonniers de guerre devienne une association des anciens captifs. Certains d'ailleurs voulaient ça. Et Jean Rodin vraiment ne voulait pas ça. Et donc, devant le Gave, eh bien, il y a une transformation là qui s'opère. C'est que les prisonniers d'hier deviennent les bons samaritains d'aujourd'hui. Devant la grotte, ils disent « nous serons leur secours quoi qu'il nous en coûte ». Et donc il y a cette transformation de passer d'être prisonnier à devenir les bons samaritains d'aujourd'hui. Et le secours catholique est lancé, voyez, dans une action de grâce pour la libération.
Jean Rodin donc prend la tête donc de ce nouveau Secours catholique et il s'illustre, ou en tout cas le Secours catholique s'illustre probablement en partie à son initiative par un certain nombre de campagnes. Entre autres, j'ai relevé donc la campagne des berceaux. En tout cas, il est dit de lui qu'il était extrêmement doué donc pour lancer des espèces de quoi de campagnes d'opinion en fait, et qu'il avait vraiment un don pour la communication. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les débuts de ces grandes campagnes du Secours catholique? Par exemple, la campagne des berceaux, qu'est-ce que c'était?
Oui, c'est la deuxième. La première, c'est la campagne des malades. Qui s'impose au sortir de la guerre. Il y a la tuberculose, il y a beaucoup de choses comme ça. La deuxième, la campagne des berceaux. Pourquoi ? C'est le moment du baby-boom. On a 200 000 naissances de plus qu'avant-guerre. Et puis, il y a des problèmes de lait, il y a des problèmes de malnutrition, etc. Et donc, cette campagne, elle s'impose. Et donc, l'idée là, de Jean Rodin... Alors, à chaque fois que je dis Jean Rodin, bien entendu, il n'agit pas tout seul. Il y a plein de troupes qui sont avec lui. Il y a bien des gens qui ont des idées, qui suggèrent, etc. Mais Jean Rodin est le catalyseur de tout ça. Et puis, il a des talents d'organisateur. Et donc, ce qu'il cherche, c'est par ses campagnes, une campagne chaque année. Donc, 1947, campagne des malades. 48, campagne des berceaux. 49, campagne des vieillards. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, entre décembre et Pâques, on met en place une action d'envergure au niveau de toute la France. Et l'enjeu, c'est que tous les catholiques, voire plus, et c'est ce qui s'est passé, se mettent en route sur une question donnée. Et donc, par exemple, la campagne des berceaux, c'est le berceau est l'élément symbolique de la campagne, mais l'enjeu, c'est de soutenir les jeunes foyers. Et donc, ça commence à faire une enquête dans son quartier, de voir quels sont les jeunes foyers qui sont en difficulté, de quoi ils ont besoin, etc. Et Jean Rodin, je le disais tout à l'heure, a été aumônier de la JOCF, donc il a en tête la pédagogie de l'action catholique, voir, juger, agir. Et c'est cette pédagogie-là qu'il essaie de mettre en place dans les campagnes du Secours catholique, voir, enquêter. Et être très attentif, être précis, bien voir quelles sont les misères existantes et bien les comprendre.
Quand vous dites que tout le monde suit, enfin, vous avez l'air de dire qu'en fait aussi le contexte était différent, c'est-à-dire que le Secours catholique, quand il lançait une campagne en décembre et puis après qui courait donc jusqu'à Pâques, y compris tout le carême, en fait quoi, tous les catholiques de France suivaient à l'époque.
Oui.
Il y avait peut-être pas autant d'ONG ou d'associations, c'est ça ou...
Alors il y avait beaucoup d'associations, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les œuvres charitables qui existaient. Il y avait les conférences Saint-Vincent de Paul, il y avait les dames de la Ligue féminine d'action catholique, etc. Mais alors justement, qu'est-ce que vient faire le Secours catholique? Il vient se placer comme une force de coordination et d'harmonisation des différentes œuvres existantes. Et Jean Rodin a beaucoup insisté d'ailleurs sur le fait que le Secours catholique n'est pas une œuvre en plus, mais c'est une force de coordination et d'harmonisation. Et il prenait souvent cette image en disant le Secours catholique, il fournit la table où les uns et les autres se mettent autour de la table pour coordonner leur action. Et ça, c'est vraiment la force du Secours catholique dans ces premières années. C'est vraiment de se positionner comme une force de coordination, d'harmonisation. Ça permettait aussi outre les campagnes, de faire en sorte que les dons qui venaient des pays étrangers, l'Espagne, le Canada, les États-Unis, pour la reconstruction, que ces dons puissent effectivement arriver et être répartis aux bons endroits.
On dit de lui aussi donc qu'il c'était dans un jargon on va dire très très vulgaire que c'était une bête de com comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à l'époque à faire appel à des people, par exemple à Bourville ou autre. Est-ce que vous avez quelques exemples de...
Oui, pour la campagne du logis, il fait appel effectivement à Bourville qui peint qui écrit, qui signe les camions du Secours catholique. Voilà, il y a des choses comme ça. Il organise, par exemple, pour la campagne des vieillards, il organise un repas avec 3000 vieillards. Et à l'époque, un vieillard, c'est pas péjoratif comme aujourd'hui, c'est simplement les personnes qui sont un peu âgées. À chaque table, une personnalité de la culture, des arts, etc. Pour la campagne des berceaux, il organise... Encore une fois, quand je dis « il », c'est avec toute l'équipe, bien sûr. Il organise le concours des plus beaux berceaux et qui sont exposés dans les vitrines sur les Champs-Élysées. Et voilà, un tas de gestes comme ça, c'est effectivement un as de la communication. D'ailleurs, il envoie une de celles avec qui il travaille à l'école technique de publicité pour se former. Et il a vraiment sans arrêt travaillé à cette affaire, parce que l'enjeu le plus essentiel pour lui, c'est, et d'ailleurs dans ses campagnes, c'est quoi? C'est de faire un travail de ce qu'il appelle un travail de sarclage de l'opinion publique. C'est donc de remuer une population entière qui, par rapport à un sujet donné, donc par rapport au jeune foyer pour la campagne des berceaux, que toute la population soit travaillée et prenne conscience, et que tous puissent contribuer à agir au niveau où ils sont. Et ça, pour Jean Rodin, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que chacun puisse contribuer. Exemple, pour la campagne des berceaux, il propose aux prisonniers, à ceux qui sont en prison, et aux prisonniers, de fabriquer des berceaux pour cette campagne. Et donc, voilà, tous ont quelque chose à donner, si vous voulez. Et donc, ces campagnes, eh bien, c'est un vaste mouvement qui doit permettre un partage collectif au plan local.
Voilà, en tout cas, on imagine, ou en tout cas, on l'espère, que ça inspire le Secours catholique quant à l'audace de ces campagnes de communication. Il y a quelques grandes dates peut-être à citer, entre autres une, l'hiver 54, qui est ce fameux hiver où l'abbé Pierre parle dans un micro, je crois, enfin à la radio, et appelle en fait à la mobilisation des Français, parce que des familles, des femmes, des enfants dorment dehors, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, et donc il se joint en fait à l'action de l'abbé Pierre. Il n'y a pas de concurrence entre les deux hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette page d'histoire, alors qui pour le coup, peut-être pour certains, évoque plus de souvenirs?
Alors, justement, c'est aujourd'hui le 1er février, et donc c'est à la fois le jour de l'appel, du second appel de l'abbé Pierre, et c'est aussi...
C'est fait exprès, bien sûr.
Mais ce qui est fait exprès, c'est par contre, on est au 40e anniversaire de la mort de Jean Rodin, qui est décédé le 1er février 1977. Voilà. Mais cette concomitance des dates est significative. Alors, en fait,
peut-être rappeler l'hiver 54 en deux mots quand même.
C'est un hiver au plan, il y a de la rigueur, le froid est très rigoureux. Et puis il manque de beaucoup de logements, que la reconstruction suite à la guerre a pris du retard, et donc il y a un manque de logements qui produit par ricochet un certain nombre de sans-abri. Or à l'époque à Paris par exemple, il n'y a aucun asile de nuit ouvert toute l'année, et donc dès décembre 1953, Jean Rodin avait lancé l'idée d'une mettre en place, de construire une cité secours en dur. Il y avait d'ailleurs un don d'un lingot d'or qui avait été déposé anonymement en décembre 1953 au Secours catholique pour permettre de construire cette cité. Mais elle était dans les têtes, si vous voulez. Et donc c'est dans ce contexte avec les rigueurs de l'hiver, que l'abbé Pierre lance son appel, c'est cette formidable insurrection de la bonté qui est arrivée. Et des camps de toile se mettent en place, le Secours catholique met aussi en place Porte d'Orléans, un camp de toile. Et puis construit une cité en dur, la cité Notre-Dame à rue de la Comète à Paris, une cité qui se veut exemplaire. Et Jean Rodin, lui, son travail, c'est de organiser la charité de l'Église catholique de la façon la plus exemplaire possible. Et ce qu'il essaie, c'est de mettre en place ce qu'il appelle un prototype. Alors la cité Notre-Dame, il a construit d'emblée avec 8 bureaux d'assistante sociale, de telle sorte que les personnes qui soient là accueillies puissent entrer dans un processus de reclassement, de pouvoir trouver du travail, etc. Et c'est comme ça que lui comprend les choses.
Autre grande date qu'il faut citer aussi, c'est sa participation au Concile Vatican II. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi elle a consisté? Donc ce grand concile qui a travaillé, pour faire très court, à la rénovation de l'Église, en tout cas peut-être de son discours ou de sa posture à l'égard du monde. Qu'a-t-il fait pendant le Concile Vatican II, et on va dire quel a été peut-être son rôle?
Donc Jean Rodin est expert au concile, expert sur les en particulier forcément les questions de charité, les questions caritatives. Alors donc concile 1962-1965, il a contribué notamment à faire en sorte que il y ait des liens qui puissent être opérés entre la liturgie et l'action caritative. Et ça c'est donc il y a des textes hein, où on sent qu'il y a un peu de sa patte, mais surtout pour la messe de clôture du Concile Vatican II, Jean Rodin a obtenu que au milieu de la messe de clôture du Concile Vatican II, donc à l'offertoire, il y ait comme une suspension, mais c'est pas vraiment une suspension parce que c'est intégré, si finalement la manifestation d'une grande quête au milieu de l'offertoire de la messe de clôture du Concile Vatican II. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que le pape Paul VI a remis 5 chèques en plein milieu de la messe. 5 chèques pour des caritas de différents continents, des caritas ou des pays les plus pauvres du monde. Et ça voulait signifier l'importance du lien entre le pain consacré et le pain partagé. Donc au cœur de la messe de clôture du Concile Vatican II, un geste très fort de partage.
Emmanuel Pella.
cette émission Vivante Église, donc en direct ce matin de Radio Présence à Lourdes, tout près des sanctuaires de Lourdes, à l'occasion donc d'une session Jean Rodin, donc fondateur, pour faire très très court, du Secours catholique en France. Enfin, vous l'aurez compris si vous avez suivi l'émission que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est les raccourcis journalistiques. Et nous sommes donc avec le père Luc Dubrulle, qui est donc président et recteur délégué à l'Université catholique de Lille. Alors, après ce parcours de vie et ce parcours dans le passé ou les débuts du Secours catholique, en quoi cette figure peut nous inspirer? Vous avez donc, il y a donc une session à l'occasion des 40 ans de sa mort, c'est ça?
Oui.
À l'occasion de ses 40 ans de sa mort, donc le 1er février
1977,
merci de m'aider. Cette session donc a pour but d'essayer de mieux faire connaître aux bénévoles du Secours catholique et aux salariés, et ils sont nombreux, hein, c'est combien de bénévoles Secours catholique? C'est plus de
65 000, je pense.
65 000, hein. La figure de Jean Rodin, qui peut être inspirante, qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? Alors, le premier point d'accroche sur lequel je voulais vous lancer, c'est qu'il avait une expression. L'expression était la suivante, il parlait des chômeurs de la charité.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et pour le coup, qu'est-ce que nous, auditeurs, et qu'est-ce que ça peut dire aux gens qui sont réunis à Lourdes en ce moment?
Les chômeurs de la charité, ce sont les ouvriers de la 11e heure. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on n'a pas encore embauchés sur le terrain de l'action. Mais chômeurs de la charité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charité, c'est-à-dire que l'amour...
C'est assez provoque comme expression, quand même. Ouais. Aujourd'hui, il y aura un évêque qui dirait ça, on se dirait il est gonflé. C'est...
Bien sûr, ouais. Mais c'est de dire y a une charité qui sommeille en tout homme. Parler de chômeurs de la charité, ça veut dire qu'on met pas en œuvre une capacité existante. Ah, et donc c'est ça que l'expression veut dire. Donc c'est les ouvriers de la 11e heure, pourquoi vous faites rien? Parce que on ne nous a pas encore embauchés. Et donc le travail du Secours catholique, c'est de comprendre comme étant un embauchage. D'ailleurs, Jean Rodin, il a en découpant la Bible, il aimait énormément. Il avait des Nouveaux Testaments en particulier qu'il découpait avec une paire de ciseaux. Et puis, donc, à l'époque, le couper et le copier-coller informatique forcément n'existait pas. Et donc, il le faisait avec une paire de ciseaux et de la colle. Et donc, il découpait dans l'Évangile tout ce qui pouvait concerner telle et telle question. Et il a notamment fait ce qu'il a appelé un manuel d'embauchage des bénévoles. Et il voit comment il essaie de repérer comment dans les Évangiles Jésus-Christ ne cesse pas d'embaucher des bénévoles.
C'est-à-dire, il essaye de décrypter la manière dont le Christ s'y prenait lui-même, c'est
exactement,
ça?
Exactement, exactement. Et donc, ces chômeurs de la charité...
Enfin, la méthode du Christ est difficilement reproductible. Quand il appelle Pierre, viens et suis-moi, on peut imaginer que c'est...
Ah ben si, justement, il dit viens et suis-moi. Il dit, des fois, c'est de cette façon-là qu'on peut embaucher, mettre des hommes et des femmes à l'action. Hein. Et donc il y a différentes, mais Jésus il s'y prend pas toujours de la même façon. Il y a plein de façons par lesquelles il embauche les uns et les autres sur le terrain, sur le chemin, sur le chantier de l'action. Et donc de la même façon de mettre les gens en action. Par exemple, Jean Rodin dit pour suivre Jésus un moment, il faut en plonger un dans la piscine parce que sinon il y va pas tout seul. Vous voyez. Donc il y a plein de, et donc Jean Rodin dit le Secours catholique, sa fonction c'est d'être l'occasion, de fournir des occasions pour que les gens puissent se mettre en route, pour que cette charité qui sommeille en eux, qui des fois peut être ankylosée, dit-il, elle puisse se réveiller et se mettre en action, parce qu'elle est là, puisque Dieu a créé l'homme à son image, donc tous les hommes sont créés avec une capacité d'amour en eux. Et le problème, c'est de la réveiller pour qu'elle puisse déployer toute sa force d'inventivité et de créativité. Pour Jean Rodin, la charité, elle est inventive, hein, créative.
Est-ce qu'on a trace dans ses écrits aussi de peut-être la douleur que ça représentait pour lui de pas arriver peut-être à faire plus ou à se mobiliser davantage ou à venir en aide à plus de personnes, parce qu'on sait que derrière toutes les grandes figures de la charité comme ça, souvent il y a quand même ils entendent particulièrement le cri des pauvres, et donc parfois il y a la souffrance de pas arriver à aller plus de l'avant ou à mobiliser un élan de charité justement plus important.
Oui, sûrement. On l'imagine à certains moments souffrant parce que l'action n'est pas suffisamment efficace. C'est quelqu'un qui est un des mots qui revient très souvent dans ses écrits, c'est l'exactitude. Il dit la charité n'a pas d'heure, mais elle doit être exacte. ça veut dire quoi? Qui bénévole ou salarié, il faut être très professionnel dans l'action. Et il faut qu'elle soit, que l'action corresponde effectivement à ce dont on a besoin, qu'elle soit précise, qu'elle soit ajustée, qu'elle soit performante. Il y a Jean Rodin, il fait sûrement franchir un pas très fort à la professionnalisation de l'action caritative. Attention, quand je dis professionnalisation, elle inclut tous les bénévoles, mais c'est que on utilise les moyens d'aujourd'hui. Le Secours catholique est sûrement une des premières centrales caritatives à s'équiper dès 1967 d'un ordinateur, un IBM 360, pour pouvoir justement gérer au mieux, être plus efficace dans l'action.
L'autre chose qui revient, en fait, semble-t-il, chez cet homme, c'est il avait l'habitude de dire que la charité était toujours pionnière, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait se lancer et que les pouvoirs publics derrière suivaient, c'est-à-dire mettre le focus, en fait, sur une situation difficile, essayer de mener une campagne, enfin, que l'Église et les chrétiens aillent de l'avant. Peut-être que vous pouvez citer un exemple qui vous viendrait, et que derrière, en fait, après avoir comme enfoncé ou occupé le terrain ou mis la lumière sur une situation, derrière, les pouvoirs publics s'y mettraient. Voilà, que c'était une... comme ça que ça marchait et qu'il fallait pas attendre autre chose et qu'il fallait y aller justement.
Oui, bien sûr. Donc c'est sa fameuse idée de créer des cités prototypes, c'est-à-dire de poser un exemplaire de telle sorte qu'il puisse ensuite être reproduit par d'autres à de multiples exemplaires. Exemple, les maisons hospitalières. Il apparaissait que la guérison d'un malade est d'autant plus se fait d'autant mieux que ce malade puisse être entouré par sa famille. Or, pour ça, il faut avoir des maisons qui puissent accueillir les familles autour des hôpitaux. Et donc, c'est le point de départ. La première est à Berck, hein, dans le diocèse dont je suis, le diocèse d'Arras. Une maison hospitalière qui puisse accueillir les familles autour d'un hôpital. Et il dit, demain... voilà, nous on fait ça, on en fait l'une ou l'autre, on en fait quelques-unes. Celle par exemple de Vanves, il fait venir le ministre de la Santé, qui à l'époque est Simone Veil, pour faire visiter cette maison. Et il dit, nous on crée ça à titre de prototype, demain quand l'État construira des hôpitaux, eh bien il construira en même temps des maisons pour accueillir les familles autour.
Et ouais. C'est ce qui se passe ?
C'est pas ce qui se passe, mais
ah bon,
c'est ce qui pourrait se passer.
Ça n'existe pas ?
De façon aussi systématique, il me semble pas. Autre exemple, c'est dans l'Essonne, la cité Bethléem, surnommée la Briche. Il apparaissait que on ne pouvait accueillir les femmes en difficulté qu'en les séparant de leurs enfants, ce qui est quand même un sacré problème. Et donc, le Secours catholique, Jean Rodin avec bien d'autres toujours, met en place cette cité où on peut accueillir les femmes avec leurs enfants. À l'époque, c'était ça n'existait pas. Et donc, Jean Rodin crée vous voyez, pour faire face à un problème, un besoin, un problème de misère, un besoin auquel on ne répond pas de façon satisfaisante, Jean Rodin dit... faisons un exemplaire le mieux possible, le plus performant possible, faisons un prototype et puis livrons le brevet à qui veut, vous voyez. Et donc régulièrement l'État demande à Jean Rodin de multiplier en nombre ce genre de cité. Et Jean Rodin refuse en disant non, nous on fait un exemplaire et puis que d'autres produisent si on veut. Vous voyez, à un moment où l'Église, forcément, il y a aussi une diminution des forces donc on peut pas occuper tout le terrain. Mais si on peut pas occuper tout le terrain, cherchons à poser des signes les plus exemplaires possibles, des prototypes. Et c'est une manière, d'une certaine façon, une recomposition de l'action de l'Église dans la sécularité, et en jouant de façon sacramentelle, c'est-à-dire de poser un signe qui puisse faire tache d'huile.
Pour finir, je voulais parler avec vous donc du don. Alors vous me direz évidemment, pour un homme comme ça, on se doute que c'est, comment dire, que ça va de soi. Mais il aurait écrit beaucoup sur le don, réfléchi sur le don, et vous-même, vous en avez fait, vous avez écrit des articles sur une espèce de théologie du don. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il a dit de particulier qui serait si éclairant qu'aujourd'hui encore on peut reprendre ses écrits et s'en inspirer pour une potentielle théologie du don?
Ah oui, alors peut-être, excusez-moi, juste avant, j'ai oublié de dire une phrase que Jean Rodin n'a pas cessé de répéter et qui est très parlante, c'est « la charité d'aujourd'hui c'est la justice de demain. Cette phrase est très forte, c'est de dire ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui à partir de l'accueil de l'amour de Dieu qu'on cherche à transformer, à mettre en œuvre avec cette force d'inventivité, de capacité, eh bien ça peut devenir la justice de demain, donc ce qui demain pourra entrer dans les lois. Et c'est pour ça qu'il disait que les cités prototypes préparaient les lois de l'an 2000. Voilà. Alors, par rapport à cette question du don, ce que je trouve assez génial chez Jean Rodin, c'est que le don, il doit pouvoir être travaillé pour être démultiplié. Et ça, voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que exemple pour la campagne des berceaux dont on parlait tout à l'heure, il y a de la laine qui arrive de pays étrangers. Eh bien, travailler le don, c'est quoi? C'est donner de la forme à cette laine, la tricoter et en faire des vêtements, etc. Et donc, dans cet aspect-là, il y a tout l'aspect démultiplicateur que Jean Rodin va d'ailleurs chercher dans la multiplication des pains. C'est de dire, les dons qui peuvent arriver, il faut essayer de leur donner un rendement maximum par l'action des uns et des autres.
Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le don d'organisation ou qui fait ça. En quoi ça peut faire naître qu'est-ce que ça a de si singulier? Je veux dire, tout bon organisateur qui a un peu d'ambition aurait dit la même chose, non?
Peut-être, ouais, mais ce qu'essaie de conjuguer, de travailler Jean Rodin, c'est que de dire dans la manière, dans la façon dont on donne et dont on multiplie les dons, eh bien, ce sont des personnes qui se forment et qui grandissent à la ressemblance de Jésus-Christ. Et donc, le don, à la fois, il sort de nous-mêmes et en même temps, il nous fait grandir. Et Jean Rodin met sans cesse en avant la finalité humaine de l'action, c'est-à-dire que c'est que ce que nous devenons à la mesure de ce que nous faisons.
Voilà, et ben merci beaucoup Père Luc Dubrulle donc de cette longue introduction donc à Monseigneur Jean Rodin. Je rappelle donc nous sommes en direct de Lourdes et qu'il y a donc une session en Jean Rodin jusqu'à demain matin et qu'entre autres vous donnez une conférence à 14h sur Jean Rodin à la cité Saint-Pierre. Donc si vous êtes du diocèse de Lourdes ou si vous êtes prêt à faire du trajet, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Philippe Subercase. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet ou ce soir à 21h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.